Et nous allons donner maintenant la parole à celui qui l'apprend de lui-même et qui va nous, qui va nous parler des 150 pains et des bœufs qu'il arrive à manger chaque jour, quoiqu'il n'ait pas encore 100 ans. Que tout le monde ici le connaît.
Je te remercie de ta bienveillante présentation. Nous allons effectivement essayer de consacrer quelques minutes à l'Égypte. Alors, je vais essayer de ne pas redire les choses qui ont déjà été dites ce matin, et donc plutôt de fixer, de conceptualiser quelques éléments. J'ai pris le thème de ce colloque au pied de la lettre, c'est-à-dire la sénescence et le fait d'être arrivé à l'état de vieillard. Bien des choses vont de soi. Je ne parlerai pas des rois, de la vieillesse royale, etc. Je m'attache plutôt à l'aspect dans la société, à travers en particulier la littérature. Alors, aujourd'hui, nous vivons dans une société où il faut être jeune et on a l'impression qu'il y a une lutte constante contre le temps. Parce que le temps, la vieillesse, la mort, c'est en quelque sorte la perte du trésor qu'on a amassé pendant toute sa vie. Vous savez, un sage qui meurt, c'est une bibliothèque qui disparaît. Donc on est très attentif aujourd'hui, aussi parce que la vie est prolongée, on est très attentif au mécanisme de la sénescence et à la destruction que cela représente par rapport à l'homme. Alors, je me suis permis d'évoquer la citation de Chateaubriand, que tout le monde connaît, et les réutilisations qui en ont été faites, polémiques, par Charles de Gaulle et puis par Pierre Desproges. Comme le disait le général de Gaulle peu de temps avant de couler, la vieillesse est un naufrage. Et il ajoute, et nous sommes tous sur le même bateau, mes frères, et nous voguons insouciants jusqu'au jour où le miroir nous renvoie les premiers signes avant-coureurs de la dégradation du temps. Tout est dit. Les anciens Égyptiens ne répugnaient pas à la vieillesse et ils n'avaient pas peur de la montrer, car elle n'est pas forcément négative. Voilà, ce sont les seuls portraits que je vais vous montrer. Ce sont des statues de la 25e dynastie. On est donc au milieu du premier millénaire avant notre ère. Et on y représente, ce sont généralement des statues qui servent d'ex-voto, on y représente des hommes qui sont de hauts fonctionnaires. On est dans la bonne société. Des hommes âgés, avec des traits marqués. Donc il n'y a pas une préoccupation du beau, il n'y a pas une préoccupation, il n'y a pas de jeunisme, si vous voulez, parce que, justement, les traits marqués, l'âge qui a avancé, témoigne d'une vie, témoigne d'une expérience et témoigne donc d'une valeur. Je n'ai pas résisté à vous montrer ce magnifique portrait qui vient de Memphis, qui est au British Museum. L'homme âgé présente, et là on entre de plein pied dans la question des anciens et des vieux, qui vient d'être évoquée, il joue un rôle dans la société. Nous allons voir même qu'on peut poser la question de sa compétence dans certains textes, mais qu'en général, les positions les plus élevées sont tenues par des gens âgés, ce qui représente assez normalement l'aboutissement d'un cursus honorum que nous pratiquons encore aujourd'hui. Voilà une petite figurine en bois, une petite figurine funéraire qui fait partie d'un ensemble de ce qu'on appelle des modèles, c'est-à-dire ça ressemble à des petites maquettes qui accompagnent le mort dans l'au-delà pour y accomplir les tâches dont il a besoin. Une petite parenthèse pour un roi qui est le roi Sésostris III. Nous sommes donc ici au début du deuxième millénaire. C'est une tête qui est conservée au Louvre et qui présente le roi vieux. Alors, j'ai dit que je ne parlerai pas de la phraséologie royale, mais on pourrait s'attendre à ce que le roi soit idéalement toujours jeune, toujours fort, toujours puissant. Et parmi les questions qui ont été soulevées dans les communications précédentes, il y a celle de la participation active du roi à des actes militaires. Et j'ai vu qu'à certains moments, il y avait un certain vacillement. Ah, il n'est pas là parce qu'il n'est plus au pouvoir. Non, en fait, on le voit à travers les souverains égyptiens, qui sont bien documentés, avec des chronologies généralement très claires. Je vais prendre deux exemples que vous connaissez. Un souverain qui a régné très longtemps, Ramsès II, presque centenaire, il a dépassé les 90 ans, et Thoutmosis III. Ben, Thoutmosis III va se battre jusqu'en l'an 46 de son règne, et les six dernières années de son règne, il ne se bat pas. C'est-à-dire que il ne va pas au combat, il n'y a pas non plus de combat. C'est aussi une dimension qu'il faut prendre. Si vous prenez, par exemple, le jeune Séti Ier, eh bien, il commence sa carrière comme bras armé du souverain qui le précède. C'est le prince qui va se battre. Donc, je crois qu'il faut, là, peut-être documenter un petit peu plus historiquement ces questions-là et ne pas systématiquement en faire des opérations de politique intérieure. Il y a un moment où la logique veut qu'un homme de 90 ans ne va pas au combat, parce qu'il n'a aucune chance, même s'il reste à l'arrière. Déjà, le voyage est compliqué, comme cela a été montré. Alors, vous voyez ici, dans ces deux statues que je vous montre, il y en a une où Sésostris III est représenté jeune, et là où on voit des traits marqués par les ans. C'est le même roi représenté à deux époques de sa vie. Alors, ça a fait couler beaucoup d'encre. Hein. Le dernier qui a parlé de façon fort compétente de ces questions-là, c'est Dominique Labourie. Et voilà ici cette vue extraordinaire hein, de la statue qui est au British Museum. Alors, on voit des traits qui sont taillés à coups de serpe, qui sont marqués. On ne sait plus si c'est la vieillesse, si c'est la nature même du roi, ou si c'est le lourd exercice du pouvoir. Donc, il y aurait une traduction dans la plastique, si vous voulez, de cela. Alors, évidemment, je vais immédiatement presque contredire. Vous voyez ici ce visage qui est conservé au département des antiquités égyptiennes. C'est le même visage, mais il est plus jeune. Donc, on a réellement, probablement, une recherche. Alors, je n'insiste pas, c'est des choses qui ont été souvent, longtemps et fort bien étudiées et qui ne sont pas tout à fait dans mon propos. Alors, quels sont les signes de la vieillesse ? Comment, puisque c'est une question qui a été posée, comment reconnaît-on quelqu'un qui est vieux ? Alors, les sources égyptiennes sont parfois cruelles, vous allez voir. Je vais reprendre l'exorde des Maximes de Ptahotep que Thomas nous a présenté dans une traduction qui peut-être mériterait d'être un peu affinée, mais c'est normal, c'est mon métier de le traduire. En plus, ce n'est pas moi, c'est une traduction qui a été faite par Françoise Unal Lacombe. Donc, le début de ce grand recueil de sagesse est mis en scène. Le roi, c'est le roi Isési, le vieux Ptahotep vient le voir et il lui dit « Souverain mon maître, le vieillage est apparu. La vieillesse est arrivée, la sénescence est venue, la faiblesse se manifeste. Et celui qui somnole à cause d'elle se trouve chaque jour retombé en enfance. La vue est basse, l'ouïe est faible, et la vigueur s'en va pour celui dont les facultés s'affaiblissent. La bouche est silencieuse, elle ne peut parler. L'esprit a des absences. Il ne se souvient pas d'hier. Les os sont douloureux à cause de l'âge. Ce qui était bon est devenu mauvais. Toute saveur a disparu. Ce que fait la vieillesse aux hommes, du mal en toute chose. La respiration est bloquée, le souffle est court, du fait de la difficulté à se lever, ça, tout y est, y compris la perte de la mémoire courte. On a donc une description clinique de l'état de quelqu'un qui est tombé en état de vieillesse. Dans le conte d'Isis et de Ré, qui est un recueil de formules magiques, on y raconte comment la grande magicienne Isis a essayé de prendre pouvoir sur le dieu Ré. Et le récit commence de cette façon. Le roi Ré s'en va pour faire sa course diurne. Le soleil va éclairer le monde. Et le texte dit, en parlant de lui, que c'est un vieillard, Yahou. C'est le seul terme que l'on utilise pour désigner un vieux ou la vieillesse. Et il est déterminé par un homme courbé avec un bâton. L'image, c'est le bâton. Retenez ce bâton, on va le retrouver très, très, très bientôt. La vieillesse avait affaibli la bouche du vieillard divin, de sorte qu'elle laissait échapper sa salive vers la terre. Nous parlons quand même du maître de l'univers. Donc, la description peut être cruelle, elle est réaliste, disons, probablement, dans ce cas-là. Je passe sur la suite, vous ne saurez pas comment Isis n'est pas arrivé à prendre le pouvoir sur Ré, mais venons-en à la question de la durée de la vie, puisqu'on arrive à trouver à peu près ce qui en marque le terme, où se situe chronologiquement ce terme. Alors, bien des chiffres ont été avancés. Une petite remarque. En Égypte, on a des données démographiques un petit peu fiables à partir de l'époque romaine. Auparavant, on a une documentation assez lacunaire. On ne peut pas non plus faire fond sur des exploitations exhaustives de nécropoles. Il y en a eu extrêmement peu. C'est la question qui a été posée tout à l'heure sur les jeunes hommes qui ont été tués. Il faudrait voir ce qu'il y a autour. Bon. Donc ça aussi, l'anthropologie n'a pas apporté, sauf sur des populations restreintes, de statistiques. Mais on ne peut pas faire de statistiques globales. On peut extrapoler en remontant au deuxième millénaire et arriver à peu près, encore une fois, on ne peut pas tenir compte du taux de mortalité infantile ou à la naissance, on ne le connaît pas. On peut dire que chez les femmes, L'espérance de vie au milieu du deuxième millénaire, milieu du premier, est environ 20 à 25 ans à la naissance. Les femmes qui dépassent 10 ans ont une espérance de vie d'environ 37 ans. Du côté des hommes, ce n'est pas beaucoup mieux. À la naissance, 22 ans et demi à 25 ans. L'homme vient tout petit peu plus vieux, enfin, il meurt un peu moins jeune, si vous voulez, alors qu'en fait, il est plus exposé à des pratiques de violence en particulier. Après 10 ans, alors, les enfants qui survivent ont une espérance de vie probablement d'une cinquantaine d'années, qui serait un bon âge, c'est l'âge mûr, si vous voulez. Quelques exemples, on a quelques exemples à 70 ans, à 60 ans, d'autres beaucoup plus rares à 70 ans. Alors, 90 ans et plus, c'est exceptionnel, et cela n'est attesté que dans les couches les plus hautes de la société. Pour une raison bien simple, et c'est ce qui montre bien que les statistiques n'ont pas forcément une grande valeur. C'est attesté dans ces couches-là parce qu'on n'a pas de documentation pour les couches les plus basses. Donc, c'est un peu stupide, si vous voulez, de faire des statistiques en ce sens-là. On a des cas, j'évoquais Ramsès II, on a Pépi Ier qui vit extrêmement vieux. On le sait parce que ça crée des problèmes dynastiques ensuite, et des problèmes de succession. Bon. Alors, vous voyez qu'on est à peu près dans les chiffres qui ont été avancés jusqu'à présent. Je vais vous regarder un cas. On va regarder ensemble un cas d'un haut dignitaire pour déterminer à quel âge, jusqu'à quel âge il a été fonctionnaire. C'est Amenhotep, fils de Hapou, qui fut un grand personnage à la cour de Amenhotep III. Vous avez ici une vue du temple funéraire que le roi a fait édifier pour lui. Chose rarissime. Alors, Amenhotep, fils de Hapou, s'il veut bien venir, voilà. On le connaît par toute une série de statues. En particulier, j'en ai choisi une qui est au musée du Caire, qui est une statue, ce qu'on appelle une statue semi-cube. Vous voyez, il est agenouillé, représenté en scribe, et le socle et le pagne sont recouverts de décorations, de textes, qui sont une description, c'est une autobiographie, si vous voulez. Regardons un passage de cette autobiographie qui est ici. Il dit, alors, rassurez-vous, je traduis, n'est-ce pas, Anne je vous le traduis d'une façon un peu perceptible, c'est un peu plus compliqué. Devenir vieux est un brevet de justice. Entendez par là, c'est d'avoir pratiqué la justice et d'avoir été conforme à l'équité. J'ai atteint 80 ans, comblé des faveurs de par le roi. Ça aussi, c'est important. Et, Yui Erkem 110, j'accomplirai 110 ans. Donc, vous voyez, il a à peu près 80 ans. Il dit... J'irai jusqu'à 110. Bien. Alors, pourquoi dit-il j'irai jusqu'à 110 ? Alors, Gustave Lefebvre, qui avait fait une très belle communication à l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres il y a 70 ans, dont je me suis inspiré beaucoup du texte, se livre un petit calcul à partir de la documentation que l'on connaît. Cette statue n'est pas datée, cependant, on lit au cours de la seconde inscription, parmi les titres d'Amenhotep, celui de majordome de la fille royale, épouse royale, Sitamon. Cette fille d'Amenophis III, déjà mariée, ne devait pas avoir alors moins de 15 à 20 ans. Nous ignorons au surplus quel rang d'âge elle occupait parmi ses 10 ou 11 frères et sœurs. Nous n'exagérerons donc pas, je crois, en supposant que la statue image du vieillard de 80 ans n'est pas antérieure à l'an 20 d'Amenophis III. Or, en l'an 31 de son règne, le roi inaugure le temple funéraire qu'il a fait construire au pied de la colline de Gournet-Mouraï pour son fidèle serviteur, Amenhotep, fils de Hapou, décédé. C'est le temple que je vous ai montré à l'instant. Celui-ci pouvait donc avoir dépassé 90 ans, mais n'avait certainement atteint ni 110, ni même 100 ans. Alors pourquoi est-il si important d'arriver à 110 ans ? C'est quand même, vous venez de le voir d'après la pseudo-analyse statistique que j'ai faite, c'est un âge extraordinaire. Alors, quelle est la limite de la vie ? La vie s'arrête forcément à un moment, mais ce moment est-il ces 110 ans ? Alors, pour mémoire, ne serait-ce que pour vous montrer que moi aussi je lis les auteurs classiques, dans le Sénectute, Cicéron évoque Gorgias de Lénantium qui est arrivé à 107 ans. Alors la Bible permet, je sais, je suis sur ton terrain, mais j'y entre un peu. Dans la Genèse, on a Joseph qui atteint 110 ans, et dans le Deutéronome, on a Moïse qui atteint 120 ans, dont tu vas parler, je ne vais pas... Et je vais essayer de ne pas détruire ta communication. Alors, pour Joseph, ben Joseph, il est en contexte égyptien. Né en Égypte, il est d'ailleurs mort en Égypte, comme le relate Josué. C'est-à-dire qu'on a un homme qui a entièrement vécu en contexte égyptien, le référent lui-même, et le référent culturel égyptien, même si le corps, après, est rapatrié en Terre Sainte. Pour Moïse, ben, il y avait à fixer le terme dans la Genèse. « Mon esprit ne demeurera pas en l'homme pour toujours, puisqu'il n'est que chair, ses jours seront de 120 ans. » On a là quand même deux limites, une limite divine, qui est celle de la Bible, et un plafond, j'ose pas dire limite aussi, un plafond qui est celui de la culture égyptienne dans laquelle évolue. Si je puis dire, Moïse a perdu 10 ans parce qu'il était d'un milieu égyptien. Alors, est-ce que ces deux dates sont considérées comme les référents maximum dans les deux cultures? Ça, tu nous en parleras. Moi, je me contente de revenir à mes affaires. Alors, regardons quelques exemples. Ici, on est dans le temple de Karnak, on est dans le montant gauche de la porte qui donne accès à l'escalier intérieur du môle oriental du 8e pylône. Et c'est une inscription, il y a des inscriptions là qui ont été laissées par les grands prêtres. Il s'agit là de Romroy. Il dit voilà, il fait une offrande au dieu de Karnak et au roi, dont le but est que j'aille et vienne, vous voyez les hiéroglyphes expressifs, c'est aller dans un sens, aller dans l'autre, pour que j'aille et vienne dans le domaine d'Amon, recevant les faveurs de son cas, jusqu'à ce que j'atteigne 110 ans sur terre, comme tout homme juste. Donc on a bien là l'idée qu'il y a un plafond qui est fixé à la vie, qui est la récompense ultime d'un comportement adéquat sur terre. Alors je ne vais pas... On ne va pas faire de la philosophie chinoise avant l'heure, mais on s'en rapproche un peu. Regardez ici, cet autre, alors un texte que j'adore, j'essaie de le faire apprendre par cœur par tous mes élèves, mais ça ne marche pas forcément, c'est l'éloge que fait, ce sont des exercices scolaires d'époque ramesside, c'est l'éloge que l'élève fait de son maître. Il lui dit, tu es le plus beau, tu es le plus grand, etc. Et donc, il souhaite à son maître Aménémopée, que l'on connaît, ceux qui suivent mon cours, ont même reconstitué la bibliothèque d'Aménémopée, il lui souhaite d'être en pleine santé, de rajeunir chaque jour, de multiplier les années heureuses, passant ses mois en prospérité, ses jours en vie et force, ses heures en bonne santé, avec la bénédiction des dieux qui sont satisfaits de ses propos. Si bien que te sera assigné un amenti, c'est-à-dire un au-delà, heureux, sans que tu sois vieux, sans que tu sois malade, jusqu'à accomplir 110 ans sur terre, en pleine forme, comme il se doit, pour qui bénéficie comme toi de la faveur. Car ton Dieu t'a donné sa faveur. Nous y sommes. C'est aussi la prière chrétienne, hein, connaître une fin honorable, en bonne santé, etc. On est exactement dans le même domaine. C'est-à-dire que 110 ans semble bien être la limite d'âge que l'on ne peut pas dépasser, mais la question est de savoir dans quel état on y arrive. C'est tout le problème. Alors, nous avons vu que Gilgamesh, lui, il avait essayé d'être éternellement jeune, mais ça, il est le seul, et ça n'a pas marché. Les Égyptiens n'ont pas du tout cette prétention. Ils n'ont pas du tout l'intention de durer éternellement sur Terre. Alors, quelle est la limite de la vie active? Quand arrive-t-on à un moment où on ne sert plus à rien? Et donc, on est un vieux, comme moi. Alors, reprenons l'exorde des maximes de Ptahotep, mais cette fois-ci à la fin. Et il dit « Que soit ordonné à cet humble serviteur de former un bâton de vieillesse, Yahou, hein, ce qu'on a vu tout à l'heure, l'homme vieux qui marche avec un bâton, alors je lui dirai les paroles de ceux qui ont écouté les conseils des ancêtres, voilà vos anciens qui reviennent, qui pour la première fois ont obéi au Dieu. Ainsi on agira de même à l'égard de toi, on écartera les souffrances du peuple et les deux rives travailleront pour toi. Alors la majesté de ce Dieu dit « Enseigne-lui donc ce qui a été dit auparavant, ainsi il sera un modèle pour les enfants des notables, et l'obéissance le pénétrera, la pensée juste lui ont été exprimées. Personne n'est né sage. » Et là, on a la réponse du rôle au rôle du vieillard dans la société. Il est l'expérience. Et cette expérience doit être transmise. Car j'en reviens à mon sage qui meurt et à la bibliothèque qui disparaît. S'il n'y a pas transmission, il y a effectivement une perte sèche, si j'ose dire. Et la façon de passer de l'âge où l'on est encore capable de faire quelque chose à celui où on ne sera plus capable de faire quoi que ce soit, eh bien c'est le moment de la transmission. C'est ce que dit Ptahotep au début. Il décrit le déclin physique et intellectuel. Et avant que ce déclin ne soit irrémédiable, il faut, en quelque sorte, passer le flambeau. Alors, Amenhotep, fils de Hapouk, qu'on vient de rencontrer, dans la même situation, suggère de pouvoir disposer en la personne de son fils bien-aimé d'un bâton de vieillesse. Et c'est le terme qu'ils emploient. Un petit exemple qui est tiré de la bibliographie du vizir Ouzer, qui fut vizir sous Toutmosis III. Les courtisans, alors ce sont des récits, en Égypte, les récits politiques sont assez mis en scène, hein, il y a toute une présentation. Les courtisans font observer à Toutmosis III que le vizir en place, qui a été nommé par Toutmosis Ier, hein, c'est-à-dire deux générations plus tôt, a beaucoup baissé du fait de l'âge. Alors ils lui disent, il faut que tu saches, souverain notre maître, que le vizir a atteint un grand âge. Son dos est voûté, encore notre Yahou, et sa ville ne lui obéit plus. Il suggère que son fils Ouzer, qui est intelligent et de bon caractère, présente les qualités d'un bâton de vieillesse. Le roi accepte la proposition et la formule en ces termes au vieux vizir. « Je constate que ton fils Ouzer a les qualités adéquates, dans la durée et sur les bases données par ton enseignement qui correspondent à tes souhaits. Je souhaite que ces qualités te conviennent et qu'il soit pour toi un bâton de vieillesse, comme il se doit pour quelqu'un qui mérite des lois. » Et voilà, là nous avons trouvé, nous sommes à l'articulation de la vie terrestre et de la vie éternelle. On transmet l'héritage terrestre avant de se tourner vers le monde des morts. Tout cela est d'une grande sagesse. Bien. Avec la vieillesse, quand on remplit les conditions adéquates, vient le maintien de la bonne santé. Et c'est le titre que j'ai donné à cette petite contribution. Le prince Argenef, donc, présente à son père Khéops, qui s'ennuie dans son palais comme seul un roi oriental peut s'ennuyer, il lui présente un magicien. Et il lui dit, c'est un bourgeois de 110 ans, qui mange 500 pains et comme viande une moitié de bœuf et qui boit 100 cruches de bière encore aujourd'hui. Il sait remettre en place une tête coupée. Il sait faire marcher derrière lui un lion dont la laisse traîne à terre. Il connaît enfin le nombre des chambres secrètes du sanctuaire de Thoth. C'est un jeune homme de 110 ans qui se porte bien, n'est-ce pas ? C'est-à-dire qu'il est en pleine santé et en même temps, il a une puissance que même des gens plus jeunes n'auraient pas. Argenef va chez Djedi. Arrivé chez le magicien, il le trouve, je cite, « couché sur une natte devant la porte de sa maison. Un serviteur lui tenait la tête et l'enduisait de pommade, tandis qu'un autre lui massait les pieds. » N'oubliez pas cela, on va y venir dans un instant. Il le salue ainsi. « Tu fais vraiment pas ton grand âge, bien que tu sois en pleine vieillesse, à l'heure de la mort, de l'ensevelissement, de l'enterrement. » C'est charmant, hein, comme entrer en matière. « Tu as la mine d'un homme qui dort jusqu'au jour. Pas d'insomnie, hein ?» qui ne connaît ni maladie, ni quinte de tout. Je l'envie. C'est ainsi que l'on salue un personnage vénérable. Vous voyez, là encore, on joue très bien de la réalité et de ce qui devrait être. Il devrait être moribond, cet homme. Il ne l'est pas. Les Égyptiens ne sont pas dupes de cela. Il y a donc un certain prodige. Comment fait-on pour être aussi gaillard jusqu'à cet âge ? Est-ce qu'il y a une recette ? Le pauvre Sinoué, dont vous connaissez les aventures, dit à un moment, il est vieux, il a peur de mourir à l'étranger, il va rentrer en Égypte. Et il dit, si seulement mon corps pouvait rajeunir, la vieillesse est sur moi, la faiblesse s'est emparée de moi, mes yeux sont lourds, mes bras sans force, mes jambes refusent de servir, mon cœur est fatigué, je suis proche du départ, du jour où l'on me conduira aux demeures éternelles. Propos d'un pessimisme navrant, absolument. Mais est-ce qu'il succomberait lui aussi à la tentation de Gilgamesh ? Voudrait-il rajeunir ? Existe-t-il une potion magique ? Tu l'as évoqué tout à l'heure, c'est le papyrus Edwin Smith, dans lequel on trouve une formule qui est ainsi, dans le titre suivant, « Début du livre traitant de la façon de transformer un vieillard en jeune homme ». Comme vous vous l'imaginez, je me suis précipité. Et donc, en tirant fort la langue, je vous ai concocté cette traduction. Prendre une grande quantité d'amandes, environ 2 sacs, les réduire en poudre et placer au soleil. Quand le tout est parfaitement sec, battre comme on bat le blé, puis en broyer jusqu'au bout le fruit. Tout ce qui en est sorti, il faut le mesurer et le réserver pour séparer la balle au tamis. Mesurer à nouveau le produit obtenu de façon à obtenir 2 parts, le fruit et la balle. Traiter les 2 de la même manière. Une fois 2 masses obtenues, mettre dans l'eau jusqu'à obtenir une pâte molle. Mettre au feu dans un chaudron neuf et faire cuire entièrement à feu doux. La cuisson est achevée lorsque toute l'eau s'est évaporée et que la pâte est sèche et forme comme une balle sans aucune humidité, retirée alors du feu. On a l'impression d'assister à une séance de cuisine à la télévision. Une fois refroidies, les mettre dans une cuvette pour les rincer dans le fleuve, bien nettoyées. On reconnaît qu'elles sont bien nettoyées, à ce que, au goût, l'eau dans la cuvette ne présente aucune amertume. Les mettre alors au soleil sur un torchon propre. Une fois sèches, les mettre sur la meule et réduire à l'état de farine. Puis mettre dans l'eau jusqu'à obtention d'une pâte molle. Puis mettre au feu dans une marmite et bien cuire. On sait que la cuisson est achevée lorsque des gouttelettes d'huile remontent à la surface. Recueillir avec une cuillère cette huile, la réserver dans un pot hin, préalablement tapissé d'un enduit lissé et durci. L'huile ainsi prélevée est versée à travers un tissu dans le pot hin. Une fois l'opération terminée, transvaser l'huile dans un vase en pierre. En enduire le crâne du patient. Cela écarte la maladie rhénète. Si on enduit le corps, la peau se trouve embellie et les taches disparaissent, ainsi que toutes les impuretés, toutes les marques de l'âge, toutes les inflammations qui sont sur le corps. L'efficacité en a été prouvée un nombre incalculable de fois. Ben oui, on s'est fait rouler. On s'est fait rouler, c'est un produit cosmétique, c'est vrai. C'est pas la jeunesse, c'est l'apparence de la jeunesse. Et regardez notre Jedi, qui pourtant a un solide appétit. On est probablement en train de lui masser le crâne avec une pommade de cette nature-là pour que les gars. Donc les Égyptiens, même s'ils avaient la sagesse de ne pas se penser immortels ici-bas, avaient quand même une vanité qui n'est pas sans rappeler la nôtre. Encore deux points. Donc le secret, on vient de le voir avec les 110 ans, le secret pour rester sur Terre, c'est de suivre la justice, c'est de respecter l'ordre établi, c'est de suivre la Ma'at. Revenons dans ces maximes de Ptahotep. Nous sommes à la fin. Vois, un bon fils tel que Dieu le donne est celui qui fait plus que ce qui lui a été dit par son maître, quand il pratique l'équité. Agis donc selon son désir, où qu'il porte ses pas. Puisses-tu me rejoindre, ton corps étant sauf, et le roi content de tout ce qui a été fait. Puisses-tu passer de longues années de vie. Ce n'est pas peu de choses ce que j'ai fait sur la terre. J'ai passé 110 ans de vie que le roi me donna. Les faveurs ayant surpassé celles des ancêtres, parce que j'ai pratiqué l'équité pour le roi jusqu'à l'habitacle de la béatitude. Nous y sommes. Là, il y a une récompense. On a tendance à penser que seules les religions révélées récompensent les actions ici-bas par l'au-delà. Eh bien, en Égypte, on récompense par la durée de vie les actions dans l'ici-bas. L'accès à l'au-delà, c'est autre chose. Et en fait, même quand on a vieilli, La seule façon de retrouver la jeunesse, c'est de devenir immortel, c'est de mourir. Une fois que l'on est mort, on retrouve une jeunesse. Pas n'importe quelle jeunesse. Relisons avec cet œil un peu neuf ce passage de Sinoué. De retour au pays, on redonne à Sinoué l'aspect qui sera désormais le sien. On fit disparaître de mon corps la trace des années en m'épilant. Mes cheveux furent peignés, la vermine fut abandonnée au désert et les vêtements grossiers aux coureurs des sables. Vêtu désormais de belles étoffes de lin, oint d'huile, fine et dormant sur un lit, je laissais le sable à ceux qui y vivent et l'huile d'arbre à ceux qui s'en frottent. Tous les commentateurs disent, oui, mais il est retourné à la civilisation, il n'est plus chez les sauvages. Non, en fait, il est déjà mort. C'est-à-dire qu'il a déjà subi les soins que l'on va donner au corps pour l'éternité. De même, à la fin du naufragé, le serpent, le maître de l'île de la mer Rouge, lui dit au moment de le renvoyer, « Tu arriveras au pays dans 2 mois, tu serreras sur ton sein tes enfants, tu rajeuniras au pays, tu y seras enterré. » Car c'est là le secret. C'est-à-dire que cette jeunesse, ce n'est pas la peine de la chercher ici-bas, elle est dans l'au-delà, dans un au-delà qui va permettre aux gens de vivre non pas comme il a été soulevé tout à l'heure, non pas les infirmités de leur vie, mais le positif de leur vie. En d'autres termes, le respect de la Ma'at ici-bas garantit que dans l'au-delà, l'éternité qui sera donnée sera une éternité positive, car sinon elle serait refusée. Voilà ici un exemple d'un couple anonyme de la 5e dynastie, et puis ces images que vous connaissez, que je me contente de laisser défiler. Vous voyez ici Amenhotep et son épouse en train d'écouter les chants du harpiste. Ils sont dans leur costume des dimanches. Ils sont tout beaux, ils sont empesés, magnifiques et éternellement jeunes, avec des perruques noires, parce qu'on a fini de les peindre. je dis ça comme ça. Hein. Bon. Ici, je sais quand même, voilà. Ça, c'était la dame au sycomore. Attendez, il y en a encore un ou deux autres qui va arriver. Voilà. Voilà, ici, c'est le couple qui est en train de bénéficier des offrandes qu'apporte la déesse du sycomore. C'est Senegem. voilà encore ici des images de travaux, la tombe de Neferenpet sous Ramsès II. On voit le propriétaire de la tombe en plein travail, c'est-à-dire qu'il mène, la vie qu'il menait ici-bas, mais il la mène sans avoir tous les tracas, tous les ennuis de la vie. Il n'a pas la vieillesse, il n'a pas besoin de se soucier de la maladie. Il est éternellement bénéficiaire de la bienveillance divine. Et pour terminer, je vous montre cette image que je trouve touchante, toujours du tombeau de Sénéchem, où l'on voit Sénéchem dans les champs d'Yalou, c'est-à-dire dans les champs Élysées, en train de labourer. Mais c'est un laboureur peu crédible, vous voyez. Il est très bien habillé, même s'il est pieds nus. Et il a l'air intemporel, parfaitement heureux, comme ces bœufs à longues cornes qui avancent au-dessus d'un jardin parfaitement entretenu. C'est une idée du paradis. Mais le paradis, ça se mérite. Je vous remercie.